La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bonjour la puce, puisque nous sommes mercredi et que c'est le jour où la puce à l'oreille, avec Lucie Bouteloup, vient nous rejoindre. On la retrouvera dans une vingtaine de minutes. Et d'ici là, bonjour l'atelier. Pourquoi ? Parce que l'atelier de conversation, c'est le titre d'un film qui sort aujourd'hui en France et qui est un témoignage sur un atelier, une réunion où des gens qui ne sont pas au départ des francophones, qui ne sont pas français, mais qui vivent en France, où des gens donc vont se réunir pour se parler. De quoi ? Ben, on va le savoir dans quelques secondes. Pourquoi ? On va le savoir également. Bonjour Bernard Bronstein. Merci beaucoup Bonjour. D'être avec nous pour nous parler de ce film qui donc sort aujourd'hui en France. Ce film que vous avez tourné, en fait, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un film sur cet atelier de conversation ?
Moi, je viens d'Autriche, de Salzbourg, et en 2009, j'ai décidé de quitter ma ville, mon pays, pour faire une expérience ailleurs. Et j'étais très attiré par la France, par la langue française, et aussi par le cinéma, bien sûr. Et donc, j'ai décidé de partir à Paris. Mais le problème, c'était que je parlais pas du tout le français, pas un
Vous
seul mot.
Vous êtes arrivé à Paris sans parler du tout
Même
le français.
Même pas, peut-être bonjour, mais c'est vraiment tout. J'ai commencé à apprendre à compter. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes arrivé jusqu'où? Vous savez compter jusqu'à 1000 au moins.
Ouais, mais ça a pris du temps. Et donc, j'étais un peu naïf parce que je croyais que, en fait, si je suis dans le pays, je vais apprendre la langue assez rapidement. Mais c'était pas du tout le cas, donc j'ai galéré pendant des mois, et j'ai cherché des moyens à apprendre la langue. Et donc je suis souvent allé à la BPI, à Beaubourg.
Alors la BPI, c'est la bibliothèque donc du centre Beaubourg, du centre Pompidou.
Et là, ils aident beaucoup les gens qui viennent d'ailleurs apprendre la langue. Il y a un espace qui s'appelle auto-formation. Et là, j'ai commencé à travailler dans j'ai fait des cours multimédia.
C'est un espace qui est consacré à des gens qui ne sont pas francophones et qui veulent apprendre leur français, améliorer leur français.
Aussi le français, mais aussi d'autres langues.
Ah oui. Mais donc c'est un espace consacré à des échanges linguistiques.
Oui. Ouais. Après, là, j'ai découvert l'atelier de conversation.
L'atelier de conversation,
oui, ça existe.
Vous avez fait un film, mais ce n'est pas une fiction. On s'en doute, hein, quand on voit le film. On s'en doute que ça s'appuie sur des données qui ont une vraie réalité. Mais dites-nous un petit peu ce que sont donc ces ateliers de conversation, Bernard Bronstein.
En fait, ça c'est pour des gens qui viennent d'ailleurs, qui essaient d'apprendre la langue, et ça donne la possibilité, en fait, de parler. C'est pas un cours de français, et ça c'est le côté qui était très important pour moi, que c'était justement pas un cours où il y a un prof qui me dit voilà, ça c'est faux, ça c'est qui te corrige. Là, l'important c'est les gens, ils osent parler.
Ils se rencontrent, ils ne se connaissent pas et ils viennent de cultures et de langues différentes.
Très, très différentes. Ouais.
Et très souvent, d'ailleurs, ils commencent par se présenter.
Voilà.
C'est le cas avec l'extrait qu'on va entendre maintenant et qui vient du tout début de votre film où, visiblement, les gens sont là, côte à côte, ne se connaissent pas et se jettent à l'eau un peu.
Moi, je suis bolivienne. J'habite ici 25 ans. Très longtemps. Et je cherche du travail parce que j'ai enseigné un peu l'espagnol et je cherche dans ce domaine-là.
De quelle ville bien ?
Je suis née à La Paz, la capitale. Je viens de la montagne et j'ai vécu à la vallée, Cochabamba. Donc j'ai appris la langue de la vallée, le quechua. Pourquoi ? C'est normal.
Le quechua ?
Oui, le quechua. Je parle le quechua, je chante le quechua.
Wow.
Voilà, j'écris le quechua.
Que vous pouvez expliquer qu'est-ce que le quechua.
Ah, d'accord.
Seulement ça, non.
Le quechua, c'est une langue qui on parlait avant, bien avant l'arrivée des Espagnols, mm-hmm. en Amérique latine.
De la conquiste.
Oui. Et l'aymara aussi, et les guarani. Ce sont les trois langues les plus importantes dans toute l'Amérique latine. Mm-hmm. Et le quechua, on parle en Bolivie, bien sûr, mais aussi Pérou, l'Argentine et un peu au Chili. Par exemple, je vais dire comment allez-vous. Imainata Kasanki. Imainata Kasanki.
Imainata Kasanki.
Oui.
C'est la première fois.
Oui, ça veut dire Ari. Ou ça veut dire bien, ça veut dire sumar.
Sumar.
Bien. Mm-hmm. Les gens, ils sont contents de pouvoir parler en espagnol. Ils sont plutôt honte de parler quechua. Parce qu'ils sont vus comme des gens qui sont moi. S'ils parlent quechua, ils sont moi. Et on les becs, on dit c'est un indien. Les pauvres.
Alors, on voit que les gens parlent, ils parlent d'un petit peu tout, et quand ils se présentent, très souvent, ils présentent leur langue d'origine. Est-ce que dans ces ateliers de conversation, il arrive souvent qu'on parle de langue, justement ? On parle français comme on peut, en faisant des fautes d'ailleurs, mais ça c'est pas grave. À un moment, on voit bien que y a quelqu'un qui dit la conquiste au lieu de dire la conquête pour parler justement des conquistadors, des explorateurs de ce nouveau continent, à l'extrême fin du 15e siècle, au début du 16e. Est-ce que les gens parlent beaucoup de leur langue maternelle et de leur rapport à la langue?
Oui, je crois que ça c'est une grande thème, la langue, surtout les difficultés qu'on a de ne pas parler la langue bien. Ça c'est vraiment une grande thème et c'est aussi souvent une grande souffrance. Donc les gens, ils ont envie de partager cette expérience. Là, il y a des gens qui leur écoutent et donc ils peuvent exprimer, par exemple, comment ça peut être très dur d'essayer de parler à quelqu'un, mais on n'arrive pas de rentrer profondément dans un sujet parce qu'on n'a pas vraiment les mots. Donc, on est souvent jugé par l'autre parce que, on peut donner l'impression qu'on est un peu bête parce qu'on maîtrise pas la langue. Et donc, c'est difficile aussi de rentrer en contact sans parler la langue très, très bien.
Alors, quel est l'enjeu, Bernard Bornstein, de ces ateliers? Bien sûr, on y parle le français, donc on expérimente son français, on peut faire des progrès, mais au-delà de ça, le fait de se trouver parmi des gens qui eux-mêmes sont de culture étrangère, de langue étrangère, le fait de ne pas être jugé, de faire des fautes alors que d'autres font des fautes aussi, on hésite, mais les autres hésitent aussi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une situation qui va aider, qui va peut-être déculpabiliser, est-ce que ça a un côté presque thérapeutique de se retrouver dans une situation comme ça, ça débloque?
Oui, tout à fait, ça débloque et surtout on comprend tout de suite que les gens, ils ont fait la même expérience, ils vivent la même chose, même si on est très très différents, des cultures très très différentes souvent, mais ça on peut partager et ça facilite beaucoup l'échange et la libération de la parole.
Est-ce que vous avez l'impression parfois que des gens timides perdent leur timidité, que ça modifie un peu les comportements, que à force d'y venir, on arrive à dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire à la première séance ou à la première minute?
Parfois, il y a vraiment une certaine dynamique qui se déclenche, surtout si quelqu'un se sent vraiment concerné par le sujet. Et là, ça peut arriver vraiment que les gens, ils veulent dire quelque chose, même si c'est un grand effort, parce que peut-être ils sont timides, mais ils veulent partager quelque chose. Et oui, ça arrive. Ouais.
Alors bien souvent, on leur demande de parler de leur condition d'origine, de leur première situation et de la différence entre leur langue et la langue française, ou bien entre leur pays et le pays où ils vivent, quand ils vont dans ces ateliers, c'est-à-dire la France. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout qui témoignent là-dessus. Par exemple, une Chinoise.
Est-ce qu'en Chine, on a un ressenti de la crise qui est fort ou pas?
Maintenant, je crois que la Chine est le sauveur de l'Europe, je crois, parce que le président de Chine vient de visiter l'Europe et il a acheté beaucoup de choses, je crois. Et la crise en Chine, c'est pas très économique. Mais pour les d'autres choses, parce que quand je vis en France, j'ai vu des choses que j'ai pas vu en Chine. Et c'est toujours les choses très très simples, comme chaque dimanche, les gens ne travaillent pas et pour partager le temps pour la famille. Et j'ai pas vu ça en Chine. Toujours les gens travaillent beaucoup. Ils sont très fatigués et y a pas de temps pour le vin, le gourmand, comme on dit, c'est la vie en France, mais on travaille trop. Et on a enfant unique, donc tout le presse de la famille sont seulement un enfant. Donc les enfants vivent dans le presse de la famille. Donc c'est quoi la crise? Mais peut-être c'est pas pour l'économie, c'est pour le bonheur. En Chine, on a de l'argent, mais on n'a pas le bonheur.
La danse des mots à propos de ce film qui sort aujourd'hui en France, l'atelier de conversation avec vous, Bernard Bornstein, qui l'avait réalisé. Alors, on vient d'entendre que justement, les gens parlent de leur langue, d'eux, mais ils parlent aussi de leur pays d'origine. Il y a des sujets qui sont abordés. Qui c'est qui les choisit? Ça émerge comme ça? Ça sort tout de suite? Est-ce qu'il y a un animateur qui est là pour diriger le débat un petit peu?
Il y a plusieurs animateurs et animatrices, et ils font leur atelier comme ils veulent. Donc, c'est souvent très, très différent. Il y a parfois des gens qui amènent un sujet très, très concret, d'autres, ils font des jeux. Donc, ça peut être très, très, très différent.
Il y a des formes diverses.
Donc. Oui, il y a des formes diverses, et ça dépend vraiment de la personne qui l'anime. L'atelier, c'est des bibliothécaires.
Et donc, ce sont des francophones, eux.
Ce sont des gens dont le
français est la langue principale.
Oui,
et souvent la langue première.
Voilà. Mais bien sûr, c'est bien pensé avant et ils réfléchissent qu'est-ce qui peut déclencher un débat ou qu'est-ce qui peut être intéressant pour les gens.
Et le style de l'animateur compte beaucoup dans le déroulement de l'atelier?
Parce que
les ateliers sont très différents selon la personne qui les anime.
Voilà, ils emmènent leur propre caractère, leur propre énergie, donc c'est chaque fois différent, et ça c'est aussi très très intéressant comme participant. Moi j'ai participé pendant longtemps avant de tourner, et j'ai adoré de rencontrer toujours des animatrices et des animateurs différents, et de vivre toujours un atelier très très différent aussi grâce à eux, grâce à leur style.
Mais en même temps, il ne faut pas qu'ils prennent trop de place, ces animateurs.
Voilà.
Il faut qu'ils sachent relancer le débat, mais il faut qu'ils sachent se taire aussi.
Tout à fait, oui.
Et ça, c'est tout à fait intéressant dans votre film, c'est le rôle des silences. On sent qu'il y a eu un parti pris chez vous de laisser de temps en temps le temps du silence tel qu'il apparaissait dans ces ateliers. Parfois, il y a une hésitation. Parfois, il y a un embarras, il y a une gêne. Il y a 2, 3, 5, peut-être même 10 secondes où on ne se dit rien, et ça compte dans le temps de la conversation.
Oui, je crois ça en général, ce qui m'intéresse aussi, c'est la conversation non verbale. Donc pour moi, on peut pas montrer ça dans la radio, mais dans le film, on voit aussi beaucoup les plans d'écoute. Donc les gens qui réagissent à quelque chose qui est dit, avec des regards, avec des gestes.
Et... Alors c'est une des choses qui frappe quand on voit votre film. La plupart du temps, quand on filme des gens, quand il y a quelqu'un qui parle et qu'on l'entend parler, on voit la personne qui parle. Dans votre film, qui justement est un film sur la langue, c'est très différent parce que très très souvent, on entend quelqu'un parler et il y a un plan fixe sur quelqu'un d'autre. C'est parce que vous n'aviez pas assez de caméras, c'est exprès. Comment vous avez fait justement cette répartition des images et du son?
Ben, il y a plusieurs aspects. C'est sûr qu'il y a un aspect technique parce qu'on a tourné avec une caméra.
Donc, temps en temps, la personne qui parlait n'était pas à l'image parce que vous n'aviez pas le temps de braquer votre caméra sur lui.
Voilà, ça arrive. Mais c'est aussi une choix très, très consciente parce que justement, j'étais très, très intéressé par les réactions. Et donc, moi, je trouve parfois le sens de ce qui est dit peut être même plus fort en regardant quelqu'un d'autre qui écoute, en voyant sa réaction, ses doutes ou ses hésitations, l'essai de comprendre ce qui est dit.
Alors, ce qui est intéressant dans ces ateliers de conversation, c'est que chacun arrive avec son expérience, avec son accent, avec son souvenir, et qu'on compare son pays d'origine à la France.
Dans le métro de New York, c'est plus vivante à New York. Les gens parlent très fort et avec beaucoup d'enthousiasme à New York. Et ici, c'est tout le monde est
le mari dit Valérie, non?
Yeah, oui. Les gens ici ne chantent pas. Et dans le roue, une personne est en New York, comme ça. Et ici, jamais. C'est un esprit de. Je ne sais pas.
Et ça vous manque?
Oui, c'est bien.
Folie.
Oui, ça me manque. Oui.
Alors, qui sont les gens, justement, qui viennent participer à ces ateliers de conversation? Quels sont leurs niveaux de français? Est-ce qu'il y a un niveau minimum qui est demandé, qui est requis? Est-ce que parfois il y a des gens qui arrivent et qui parlent à peine et donc qui participent très peu?
Les niveaux sont très, très différents, mais normalement, les animateurs et les animatrices, ils veulent qu'ils parlent au moins un tout petit peu pour qu'ils peuvent au moins participer un tout petit peu à la conversation. S'il n'y a pas assez de gens, si la cercle n'est pas remplie, parfois il y a aussi des gens qui ne parlent pas du tout, mais là, il y a une préférence pour les gens qui parlent au moins un tout petit peu.
Mm-hmm. Est-ce que les gens que vous avez filmés, ils étaient contents de participer à ce film? Est-ce que le fait que vous les filmiez, ça a changé beaucoup de choses dans l'atelier, vous pensez? Ou c'est comme si vous n'étiez pas là?
Je crois qu'il y avait une certaine joie aussi qui s'est déclenchée entre les participantes de faire partir de ce projet, de faire partir de ce film. J'ai vu ça spécialement quand il y avait la première à Beaubourg où il y avait beaucoup de monde et c'était vraiment très très joyeux et j'ai senti que les gens ils sont fiers et aussi contents, peut-être même parce qu'ils ont un souvenir d'un temps important de leur vie.
Eh bien, merci beaucoup Bernard Bronstein, merci pour votre film, l'atelier de conversation qui sort donc aujourd'hui en France et il est temps dans la danse des mots maintenant de retrouver la puce à l'oreille et de retrouver Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan, alors cette semaine, comme promis, on poursuit notre balade sur le Mont Olympe en compagnie de Marie-Dominique Poré, qui a récemment fait paraître aux éditions First « Être né de la cuisse de Jupiter » et 99 autres expressions issues du latin et du grec. Alors après Jupiter, eh bien c'est au brave Achille que nous nous intéressons aujourd'hui, puisque ce valérieux guerrier a inspiré l'expression « avoir un talon d'Achille ». Mais si Achille était si fort, son talon l'était-il autant? Cette semaine encore, eh bien ce sont les CM2 de Myriam Aubry à l'école élémentaire Pierre Foncin à Paris qui se sont plongés dans le bain de la puce et du Styx aussi peut-être pour nous proposer des explications étonnantes. Je vous propose qu'on les écoute tout de suite.
Tête que ça veut dire avoir un grand pied ou un grand talon.
Peut-être que ça veut dire courir vite comme Achille.
Ça peut vouloir dire qu'il met beaucoup de chaussures et tout et tout. C'est une personne qui adore les chaussures et qui achète beaucoup de chaussures.
C'est avoir un talon sensible parce que d'après une histoire de la mythologie grecque, sa mère ou je sais plus qui aurait trempé Achille dans un fleuve qui le rendait insensible. Mais comme elle le tenait par le talon, bah c'est justement son talon qui est sensible.
Peut-être avoir un talon d'Achille, ça veut dire par exemple être agile.
On peut être agile par exemple du talon, parce que aussi Achille, ça me fait penser à agile.
Moi, ça me fait penser à l'os qui est sur le pied, le tendon d'Achille. Et je trouve que ça va avoir un talon soit sensible ou soit assez résistant.
Peut-être que avoir un talon d'Achille, ce serait par exemple notre point fort, ce serait un talon.
Peut-être que ça veut dire que c'est ton point faible en fait, ton talon. On ne peut pas courir du pied où on a mal.
Peut-être que ça veut dire qu'il a des beaux pieds et qu'il se vante un peu de ses beaux pieds. Voilà.
Alors, beaucoup d'idées encore là, Marie-Dominique Poré, et puis une élève aussi qui a été capable de nous restituer l'histoire de ce pauvre Achille.
Oui, une partie de l'histoire, effectivement. Achille, c'est en fait un semi-dieu qui était le septième enfant de la déesse de la mer, Thétis, et d'un simple mortel qui s'appelait Pélée.
C'était un chevalier, incarne parfait chevalier.
Le parfait chevalier, le roi des Myrmidons. Et alors, ce personnage, cette maman, selon la légende, elle l'aurait trempé un jour dans les eaux du fleuve des enfers, qu'on appelle le Styx, parce que ce fleuve avait la vertu de pouvoir rendre la personne qui était trempée dedans complètement invulnérable et donc par la même immortelle. Donc elle l'a fait, et comme effectivement l'a dit un petit garçon, le fait qu'elle l'ait trempée comme ça dans l'eau, malheureusement, le point par lequel elle le tenait, c'est-à-dire le talon,
son talon,
il n'a pas pu être lui trempé, donc il a toujours eu cette espèce d'endroit qu'on appelle donc maintenant le talon d'Achille, c'est-à-dire le point faible, puisque par là, il n'était plus vulnérable. Et c'est ce qui lui a valu justement malheureusement sa mort, puisque lors de la guerre de Troie, Achille, qui était donc du côté des Grecs, lorsqu'il s'est battu contre le fils du roi Priam, Paris, Paris, forcément, lui, il a décoché une flèche à l'endroit qu'il savait être le défaut de la cuirasse, son point faible. Et effectivement, c'est ainsi que malheureusement, et alors c'est Homère qui le raconte dans son épopée, dans l'Iliade, il raconte effectivement comment Achille, malheureusement, est mort de la sorte.
Et qu'il n'assistera pas à la prise de la ville de Troie.
Et qu'il ne verra pas la ville de Troie. Mais il y a une autre petite histoire, il y a une autre légende qui est effectivement corollaire à cette première, c'est qu'on raconte que sa maman, donc c'est Mélée, qui l'aimait bien pourtant cet enfant, passait son temps le jour à l'enduire d'ambroisie, c'est-à-dire ce doux nectar des dieux, et que la nuit, en revanche, en quelque sorte, elle le plongeait dans le feu. Et que son père, donc, a trouvé que c'était un traitement quand même un tout petit peu indigne. Et donc, il a décidé, un jour, pour lui épargner un traitement quand même aussi fatigant, de remplacer l'osselet du pied, qui était déjà brûlé par cette méthode, par celui d'un géant qui s'appelait Damisos. Et ce géant avait la propriété d'être quelqu'un qui courait très vite. Et c'est de là qu'est venue cette espèce d'épithète homérique que l'on trouve chez Homère quand il définit Achille. Achille au pied agile. Alors on dit d'habitude au pied rapide, parce que le grec dit exactement Achille, il est rapide au rapport ou eu égard à ses pieds. Mais pour faire l'allusion que ce soit plus joli, l'enfant semble l'avoir trouvé. Il a mis en écho Achille avec agile et il a eu raison. Donc on l'appelle effectivement, son surnom dans l'Antiquité, c'est Achille aux pieds agiles.
Alors l'expression avoir un talon d'Achille, à quel moment on la voit apparaître?
Ah ça, je ne sais pas.
Eh bien, Alaret nous dit qu'on la trouve au XVIIIe siècle.
Oui,
que l'expression elle a été utilisée pour la première fois en 1810 par Coleridge, qui était un poète anglais, pour comparer l'Irlande au talon d'Achille du royaume britannique.
Ah, mais je ne savais pas, c'est bien. Non, c'est intéressant, intéressant.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à cette expression « avoir un talon d'Achille » ? Donc, on a bien compris qu'avoir un talon d'Achille, ça voulait dire avoir un point faible.
Faible, et non pas un point fort.
Et non pas un point fort, comme beaucoup
d'enfants. Alors, ce qu'on pourrait aussi peut-être dire, c'est que cela veut dire, en fait, le défaut de la cuirasse, c'est-à-dire qu'on a beau se sentir fort et être un demi-dieu, avoir des grandes qualités guerrières. Néanmoins, chacun, malheureusement, peut avoir quand même une faille. Et c'est sur cela que, généralement, quand on est ennemi, on cible.
C'est la faiblesse qui nous rend vulnérables.
Voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait rajouter aussi que, dans les avatars de cette histoire, on trouve effectivement actuellement la marque de crème pour les pieds de massage qui s'appelle Achilléine. Et qui montre bien qu'on trouve que la publicité s'inspire, elle aussi, de la mythologie. Et puis, personnellement, on peut aussi penser à la création du personnage de BD, Achille Talon.
Achille Talon, oui.
Voilà, qui s'est nourri de ça. Et où on voit que Achille Talon, lui, en revanche, est un maillon qui n'est pas toujours si faible que ça.
En tout cas, pour les synonymes, c'est compliqué. Moi, j'ai cherché, j'ai cherché beaucoup. Avoir un talon d'Achille, autour de moi, personne n'avait de synonyme à me donner.
Ah, et synonyme stricto sensu, non.
Et j'en ai pas trouvé.
Moi, je dirais le défaut de la cuirasse, mais voilà. Parce que le point faible, c'est simplement une définition, en fait.
Alors, comment est-ce qu'on utilise cette expression? On pourrait dire, par exemple, cet athlète a un talon d'Achille, son revers.
Exactement.
Quand on parle d'un grand
tennisman. Il joue très bien, mais il a un moins bon revers, donc c'est le talon d'Achille du même, voilà, oui.
Alors, est-ce que vous savez qu'en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, en Argentine, en Grèce, mais aussi en Iran, en Russie, au Brésil, en Israël, et j'en passe, bref, aux quatre coins du monde, eh bien, en fait, on utilise cette expression telle quelle.
Toujours telle quelle.
On appelle, on dit, avoir un talon d'Achille.
Voilà. Ils n'ont pas trouvé mieux, je pense.
Donc, c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de trouver un synonyme, et que donc, on peut penser que cette expression a encore de beaux
jours.
Elle
a encore une longue vie devant elle. Oui, exact.
Et vous, Marie-Dominique Poré, quel est votre talon d'Achille?
La gourmandise.
En tout cas, c'est certainement pas les expressions héritées du latin et du grec, puisque je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre ouvrage « Être né de la cuisse de Jupiter » paru aux éditions First pour s'en rendre compte. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une autre expression en votre compagnie. Et pour les auditeurs qui voudraient eux aussi plonger dans les eaux du Styx et être imbattables en expression, eh bien, ils peuvent se rendre sur le site de RFI Savoir, avec un S à la fin, en tapant la puce à l'oreille dans le moteur de recherche, et ils retrouveront cette puce, ainsi que toutes les autres déjà diffusées à l'antenne. Bon bain et bonne semaine à tous.
À bientôt.
Merci bien Lucie Bouteloup pour cette puce, et merci bien Marie-Dominique Poré qui était avec vous. Merci aussi à Bernard Bronstein qu'on a entendu dans la première partie de cette danse des mots nous parler de l'atelier de conversation dans cette émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.